Bonjour et bienvenue à tous dans ce podcast de Bionutrition Santé. Je suis Lydia Van de Messem. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une émission consacrée à l'Ayurveda. Alors l'Ayurveda, qu'est-ce que l'Ayurveda? Je voulais vous faire une petite présentation aujourd'hui de ce qu'est l'Ayurveda parce que peu de gens en Occident, en Europe, en France bien évidemment, savent ce qu'est l'Ayurveda et c'est vraiment bien dommage parce que c'est une médecine extraordinaire et qui mérite vraiment d'être connue beaucoup plus que ça. Donc l'Ayurveda, c'est une médecine naturelle, c'est la médecine traditionnelle indienne. C'est en fait la mère de toutes les médecines, elle a plus de 5000 ans d'existence. Et toutes les médecines naturelles qu'on connaît aujourd'hui, comme la médecine chinoise, la naturopathie, la sophrologie, etc., sont toutes des médecines en fait qui découlent de l'Ayurveda. Alors l'Ayurveda, ça veut dire en sanskrit, donc vraiment en langue originelle, ça veut dire science de la vie. Donc voilà, l'Ayurveda, en fait, c'est l'étude du vivant. C'est toutes les sciences en rapport avec le vivant, avec la nature. Et quand on parle du vivant, en fait, on fait référence à tous les règnes qu'il existe sur la planète, c'est-à-dire au règne animal, au règne végétal, au règne minéral et bien évidemment aux humains qui sont finalement partie intégrante en fait de la nature. En Ayurveda, en fait, on considère l'homme comme un microcosme à l'intérieur d'un grand tout constitué par tous les éléments de la nature. Et l'Ayurveda est une médecine en fait qui repose sur l'énergétique. C'est-à-dire que l'Ayurveda considère que tout dans ce monde, tout le vivant en fait, en tout cas tout ce qui est vivant dans ce monde, ému par des énergies et ces énergies sont liées aux différents éléments qu'on retrouve sur la Terre. Donc ces éléments sont au nombre de 5, il y en a déjà 4 que vous devez déjà connaître puisqu'on les utilise aussi en astrologie, qui sont donc la Terre, le feu, l'eau et l'air. Et il y a un cinquième élément qui se rajoute en Ayurveda, ce qu'on appelle l'éther. L'éther en fait c'est l'espace tout simplement. Et donc chacun de ces éléments eh bien, existe au sein de la nature, aussi bien au niveau des animaux qu'au niveau de la nature, des plantes, du règne minéral, au niveau des hommes bien évidemment. Et les pionniers de l'Ayurveda ont considéré en fait que les hommes étaient donc traversés par ces éléments, mais pas forcément de la même manière. Et ils ont déterminé 3 profils, 3 sortes de profils énergétiques, si on peut dire, qu'on appelle des doshas. Les doshas en Ayurveda, voilà, c'est les tempéraments en fait. C'est des tempéraments qui sont dominés par 2 des 5 éléments. Ils sont différents selon les doshas. Donc les 3 doshas, on a le premier qui est Vata, qui est composé des éléments air et éther. Ensuite, on a le dosha Pitta, qui est dominé par les éléments feu et eau. Et en dernier, on a Kapha ou Kappa, on peut dire les deux prononciations, et qui lui est dominé par les éléments terre et eau. Et à chacun de ces 3 doshas, il est attribué des qualités. Et ces qualités vont déterminer le tempérament aussi bien au niveau physique qu'au niveau psychique des personnes qui sont dominées par ces doshas. Donc voilà, c'est super intéressant parce que quand on détermine son dosha ou ses doshas dominants, puisqu'on peut avoir plusieurs doshas dominants, eh bien on comprend tout un tas de choses sur notre façon de fonctionner, sur notre façon de réagir. Et surtout, on connaît nos points forts et nos faiblesses. Par exemple, si je prends le dosha Vata, donc qui est le dosha qui est dominé par les éléments air et éther, on fait des personnes qui sont très légères, qui ont souvent voilà, un poids plutôt faible, des personnes qui vont être très élancées, qui vont donner vraiment une impression de légèreté quand on va les voir. C'est le genre de personnes dont on pourrait dire qu'elles sont un peu perchées. C'est des personnes qui vont être énormément en connexion avec le monde spirituel, par exemple, et qui sont très créatives, qui sont vraiment dans... Elles sont pas vraiment ancrées dans la matière. La plus grande difficulté que vont avoir les Vata, effectivement, ça va être d'être ancrées dans la matière et de pouvoir réaliser des choses dans la matière. Elles sont plus voilà, dans l'intellect, à penser énormément, à créer tout un tas de pensées dans leur tête. Et c'est des personnes aussi qui sont très légères, qui sont très rapides, tout comme l'air, tout comme le vent en fait. Tout simplement, un Vata, en fait, on peut le comparer un petit peu à un cerf-volant. Par exemple, un cerf-volant qui part un petit peu dans tous les sens, qui est très très rapide, qui a besoin de mouvement, qui a besoin de changement et voilà, qui s'intéresse à tout un tas de choses comme ça. Et bien, les personnes Vata, voilà, on va savoir tout de suite vers quoi elles vont tendre naturellement. Ça va être des personnes, par exemple, dans leur vie professionnelle, qui vont être doués pour travailler par exemple dans tous les métiers créatifs. Les artistes par exemple, il y a énormément d'artistes qui ont un profil Vata parce qu'elles sont vraiment en connexion avec des choses abstraites et tout ce qui est concret, tout ce qui est matériel, matérialiste, etc. C'est des choses qui vont pas les intéresser, auxquelles elles vont pas porter énormément d'intérêt. Donc c'est intéressant de savoir ça, parce que quand on sait qu'on est attiré, de ce dosha-là, eh bien on va être naturellement attiré vers ces métiers-là, ou si justement on est un petit peu perdu, on fait un métier qui ne nous plaît pas forcément, et puis on se dit « oh, je ferais bien autre chose, mais je ne sais pas quoi faire », et bien dès le moment où on connaît son profil, en fait on comprend pourquoi on est attiré par telle ou telle chose. Et surtout, c'est que dès le moment où on va, par exemple, choisir un métier créatif pour les Vata, qui est vraiment en rapport direct avec l'énergie qui nous traverse, eh bien, ça va être des métiers dans lesquels on va exceller. Puisque c'est vraiment notre essence même, notre énergie même d'aller vers ce genre de métier. Et du coup, on va forcément trouver un métier qui va nous passionner et dans lequel on va être très, très bon. Donc ça, c'est vraiment génialissime parce que ça permet de pouvoir trouver peut-être plus facilement sa voie, de plus pouvoir se rapprocher un peu plus de sa mission de vie. Et ça, c'est vraiment top. Et à côté de ça, on va aussi avoir des caractéristiques physiques et des points forts, des points faibles qui vont se dessiner en fait au niveau du dosha. Donc si on prend toujours l'exemple des Vata par exemple, les Vata vont avoir beaucoup de difficultés au niveau de tout ce qui est nerveux. En fait, Vata, c'est le dosha du mouvement, c'est l'énergie du mouvement. Donc, tous les mouvements qui se passent dans le corps sont dirigés par Vata. Donc, ça va être tout ce qui va être musculaire, la contraction, tout simplement les contractions des muscles, hein, ça va être le mouvement induit par Vata. Et ça va être tout ce qui est neurologique, donc le fait que les nerfs transportent les messages du cerveau aux différents membres, aux différents muscles, aux différents organes. Donc c'est Vata qui va être responsable de la transmission de ces messages. Donc on sait d'ores et déjà que si Vata est déséquilibré chez les personnes qui sont vraiment dominées par ce dosha, eh bien ces personnes vont être plus enclines à manifester des difficultés ou des problèmes de santé liés aux nerfs, donc à tout ce qui est neurologique. Donc ça va être des personnes qui vont être plus susceptibles peut-être de développer des maladies comme les maladies de Parkinson, d'Alzheimer, des scléroses, ces genres de choses. Vraiment toutes les maladies qui touchent la sphère neurologique. Et ça va être aussi des personnes qui vont avoir beaucoup de difficultés au niveau digestif parce qu'elles sont dominées par l'élément air. Et si ces personnes consomment des aliments qui sont eux aussi remplis de l'élément air, eh bien ça va créer encore plus d'air chez elles. Donc c'est des personnes qui vont se retrouver souvent avec des problèmes de ballonnement, de gaz, de flatulence, ce genre de choses, de spasmes intestinaux où la digestion va être facilement contrariés, et ça va être également des personnes qui vont avoir tendance à être souvent constipées puisque le dosha Vata en fait est sec. C'est l'une de ses qualités, un peu comme le vent d'hiver qui est bien froid, qui est bien sec, qui attaque un petit peu comme ça. eh bien c'est pareil, le dosha vata il est très sec, donc si on ne fait pas bien attention à bien hydrater, à bien nourrir, à bien lubrifier vata avec beaucoup d'huile par exemple dans son alimentation ou des boissons abondantes, ce genre de choses, eh bien vata va se retrouver très très souvent avec des complications au niveau de la constipation. C'est un problème récurrent qui arrive très 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 souvent et qui arrive chez beaucoup beaucoup de personnes, même chez les personnes qui ne sont pas dominées par vata. Puisque vata, en fait, est le dosha qui se déséquilibre le plus facilement. Il faut savoir en Ayurveda que, voilà, on peut avoir un ou deux doshas dominants, très souvent deux doshas dominants, ce qu'on appelle les doubles constitutions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, on a les trois doshas en nous, dans des proportions différentes, mais on a toujours des trois doshas en nous. Donc même si par exemple on est de double constitution Pitta Kapha et que notre vata n'est dosé qu'à 10% on va dire dans notre constitution, toujours est-il qu'on va quand même avoir du vata en nous. Et quand on est en période à risque, en fonction des saisons, puisque les saisons jouent également au niveau des doshas et de l'exacerbation et des déséquilibres des doshas, eh bien ces personnes-là peuvent connaître des déséquilibres vata. Et comme vata est un dosha qui se déséquilibre très facilement, eh bien il va avoir tendance à entraîner dans son déséquilibre les autres doshas. C'est pour ça qu'en Ayurveda, le dosha vata, on l'appelle le roi des doshas. Alors non pas parce que c'est le meilleur, hein, il n'y a pas un dosha meilleur qu'un autre, mais tout simplement parce que c'est celui qui se déséquilibre le plus facilement et il régit tellement de choses importantes dans le corps et qui sont surtout en corrélation avec les deux autres doshas, que du coup il va entraîner dans sa chute les deux autres doshas. Dans ces cas-là, eh ben, on ne va pas forcément aller chercher à équilibrer un dosha pitta sur une personne pitta dominante, mais on va plutôt chercher au contraire à pacifier son vata pour qu'il puisse revenir à son état d'équilibre naturel qui est d'être dans le pitta par exemple. Donc voilà, donc c'est super intéressant de découvrir tout ça. Moi, je suis tombée dedans vraiment à pieds joints. À la base, j'ai une formation de naturopathie. Et quand j'ai découvert l'Ayurveda, alors je ne sais même plus comment j'ai découvert l'Ayurveda, c'était tout à fait par hasard. Mais alors, ça a été une véritable révélation. Vraiment, mais j'ai compris énormément de choses sur moi-même. Et puis c'est vraiment intéressant en fait de voir les spécificités de chacun et après de pouvoir justement faire des comparatifs entre telle ou telle personne. C'est-à-dire que maintenant aujourd'hui je m'amuse par exemple quand je vois quelqu'un dans la rue, dans les transports, n'importe où. Je vais pouvoir rien que sur le physique déjà pouvoir déterminer quel dosha va prédominer chez telle ou telle personne. Et c'est vraiment sympa et je l'ai fait à plusieurs personnes de mon entourage. J'ai également établi des profils pour certains de mes clients et tous m'ont dit à chaque fois c'est vraiment incroyable quoi. C'est tu lis en moi comme dans un livre ouvert, ça me correspond à 2000% quoi. Et à partir de là, maintenant que tu sais ça, tu sais quels sont tes points faibles, tu sais quels sont tes points forts. Et en fonction des moments, etc., en fonction de ce que tu peux ressentir, tu vas savoir comment rectifier le tir. Parce que tu sais très bien ce qui va provoquer tel ou tel déséquilibre chez toi. Et tu sais très bien comment il va falloir que tu fasses pour pouvoir rééquilibrer tes doshas et du coup retrouver un point d'équilibre. Et le fait de retrouver ce point d'équilibre naturel, ça va tout simplement faire en sorte que vous soyez en pleine santé et ça va éloigner naturellement la maladie. Donc c'est juste fabuleux en fin de compte. Dernier petit point que je voulais vous dire également concernant l'Ayurveda, c'est que c'est vraiment une médecine en fait qui n'est pas bloquée sur le physique comme peut l'être par exemple la médecine occidentale traditionnelle qu'on connaît, qui va vraiment traiter les symptômes de la maladie. On va donner des médicaments pour tel et tel symptôme. On combat le symptôme, on le fait taire et puis tac, terminé, on n'en parle plus. Sauf que dans cette médecine occidentale, en fait, on ne va pas essayer de chercher à comprendre quelles sont les causes de la maladie. On ne va pas essayer de savoir pourquoi est-ce que cette personne a développé tel ou tel symptôme, tel ou tel problème. On éteint simplement le voyant de bord sur la voiture et puis on ne s'occupe pas du reste. Non, non. En Ayurveda, comme en naturopathie par exemple, on va vraiment aller chercher la cause des causes, essayer de remonter à l'origine du mal pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Et là, on va pouvoir partir effectivement sur des déséquilibres physiques. Donc, on peut effectivement constater qu'il y a des déséquilibres au niveau des doshas par rapport au dosha naturel de la personne. Mais on peut aussi se rendre compte qu'il y a des déséquilibres qui peuvent également venir de son psychique. C'est-à-dire que l'Ayurveda, en fait, en Ayurveda, on a une vision holistique de la personne. Et on va vraiment traiter le corps dans son ensemble, mais quand on parle du corps, on va parler de tous les corps. On va parler du corps physique, on va parler du corps psychique, on va parler du corps spirituel. C'est vraiment toutes les composantes d'une personne, d'un être humain qui vont être prises en considération. Et le psychique et le côté spirituel sont très très importants en Ayurveda et sont vraiment intimement liés. D'ailleurs, l'Ayurveda utilise plusieurs techniques justement pour apaiser l'esprit et le mental, telles que le yoga, la méditation, la relaxation, la respiration, ce qu'on appelle les pranayama, qu'on utilise beaucoup en yoga. Et en fait, l'Ayurveda est une branche d'ailleurs du yoga. C'est-à-dire qu'on a le yoga qui est une philosophie de vie. Et parmi les branches du yoga, eh bien, on a l'Ayurveda qui est la médecine qui est reliée à la philosophie du yoga et qui est plus une médecine de prévention. Alors, c'est aussi une médecine curative dans certains cas. En médecine curative, en Ayurveda, on va utiliser des techniques de purification du corps, ce qu'on appelle les panchakarma. Et le panchakarma, c'est vraiment une purification du corps dans son ensemble. Donc, ça va être avec des systèmes de purge où on va faire ressortir du corps tous les amas de toxines, de bactéries, etc. qu'il peut y avoir dans le corps. C'est effectué en clinique, en Inde, la plupart du temps. Alors, il y a quelques cliniques qui existent en France. On peut faire des panchakarma en France, mais en général c'est plutôt en Inde que ça se fait, parce que là-bas voilà, ils sont vraiment férus et à la pointe, j'ai envie de dire, pour faire ce genre de soins. Bon, après c'est vraiment réservé aux cas lourds ou en cas de maladie déjà déclarée. Par exemple, des personnes qui ont des cancers déclarés peuvent partir en Inde faire un panchakarma. Il y a déjà eu des cas de guérison alors que en France, les médecins cancérologues ne donnaient pas énormément de mois à vivre à cette personne. La personne va en Inde, elle fait un panchakarma et elle se libère absolument de toutes ces toxines. En même temps, elle libère son esprit, puisque forcément, on va initier la personne également à la méditation, à la relaxation, au yoga, etc. Et tout ça, ça va permettre aussi d'apaiser l'esprit. Et en apaisant l'esprit, forcément, on apaise aussi le corps et on rééquilibre en fait le corps dans son ensemble. Et c'est ça qui est vraiment génialissime dans cette médecine. C'est limite un peu une médecine un peu magique, j'ai envie de dire. Et c'est ce qui fait vraiment la particularité de l'Ayurveda. C'est vraiment une médecine qui est géniale sur tous les plans. Moi, depuis que je l'ai découverte et depuis que j'applique les concepts de l'Ayurveda à ma propre personne, j'ai eu des résultats vraiment génialissimes. Et j'encourage tout le monde à consulter un thérapeute ayurvédique au moins une fois dans sa vie pour vraiment savoir ce qu'il a au plus profond de lui, quelle est sa nature profonde, savoir exactement ce qui lui correspond. Et vraiment, ça peut changer vraiment toute une vie. Voilà pour cette petite introduction sur l'Ayurveda. J'espère que ça vous a plu, que vous en avez appris. Vous avez appris pas mal sur la question. Bien évidemment, je ferai d'autres podcasts sur le sujet, en particulier pour détailler chaque dosha, savoir comment les rééquilibrer, les points forts, les points faibles de chaque tempérament. Vous pouvez également vous rendre sur mon site internet www.bionutritionsanté.com où vous pouvez réaliser un test de personnalité ayurvédique pour savoir quel est votre dosha dominant. Ça peut déjà vous donner une première piste. Ce ne sera pas forcément le résultat final parce que voilà, ça vous donne en tout cas votre premier dosha dominant, ça ne vous donne pas forcément votre double constitution. Après, voilà, ça vous donne déjà des premières pistes. Et puis, bah, si le cœur vous en dit, vous avez vraiment envie d'en savoir plus sur vous, savoir comment faire voilà, pour adopter la bonne alimentation, adopter le sport qu'il vous faut, découvrir les métiers vers lesquels vous pouvez tendre pour être parfaitement accompli, épanoui dans votre vie, eh bien, n'hésitez pas à venir me consulter. Je réalise des consultations en ligne. Je trouve ça plus pratique et plus commode pour les personnes qui ne peuvent pas forcément se déplacer. Et c'est avec plaisir que je vous aiderai à trouver votre voie. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast. Voilà, namasté.